Bonsoir, bienvenue sur les Ondes Noires, l'émission la plus polaire de la bande FM.
Non, pas la plus polaire, la plus rock.
La plus rock, mais la plus polaire aussi.
Voilà, bonsoir. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à nos côtés, ou plutôt au téléphone, Oliver Gallmeister. Oliver, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre. Je sais que vous avez un emploi du temps surchargé. C'est vraiment très gentil à vous de nous consacrer ces minutes d'émission.
C'est bien gentil à vous de m'inviter.
Ben, on a eu un très très gros coup de cœur au mois de juin avec un livre que vous avez édité, Cascobé, et on ne connaissait pas du tout vos éditions, alors vous allez nous en parler. D'abord, une première question, peut-être un tout petit peu provoque, faut pas être un petit peu fou pour créer une maison d'édition au 21e siècle ?
Ben écoutez, je ne sais pas s'il faut être fou, non, je crois que c'est pas... c'est plus dur d'être libraire, c'est plus dur de créer une radio, il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles que de créer une maison d'édition. Ce qui est difficile, je crois, surtout dans l'édition, c'est de pouvoir rester éditeur un certain temps.
Pouvoir perdurer et s'installer.
Tenir la route et puis rencontrer un public et être suivi et voilà.
Alors justement, quand on crée une édition, on veut quand même tout de suite montrer et puis avoir des atouts. Quand on cherche le nom, je suppose. Alors dans vos prédécesseurs, il y en a qui ont choisi, par exemple, les éditions de l'Aube, les éditions... Et puis ceux qui ont choisi de laisser le nom, comme Édition Gallimard. Pourquoi vous avez choisi les éditions pour avoir donné votre nom ?
Alors oui, c'est pas par mégalomanie.
Je m'en doute.
Même si je suis très flatté d'être cité après Gallimard. Non, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est simplement plus facile, parce que dès qu'on cherche un nom, on s'aperçoit en France que tout est déposé. Donc Gallmeister, ça a la chance d'être un nom assez rare, donc même très rare. Donc voilà, c'était par facilité essentiellement. Et l'autre raison, c'était que ça permet, de, lorsqu'on est un jeune éditeur, de se présenter plus facilement. Voilà, on n'a pas expliqué qui on est dans la maison d'édition. Les gens présument que vous êtes l'éditeur.
Effectivement. Voilà. Alors justement, la ligne éditoriale, elle me semble très claire. Donc ce sont des éditions entièrement, mais peut-être vous allez me détromper, consacrées au nature writing, en français, donc à l'écriture sur la nature et
les grands espaces.
Vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors en fait, pour cadrer la ligne éditoriale, je pense qu'il vaut mieux dire que c'est d'abord une maison d'édition de littérature américaine ensuite, et de littérature américaine de l'Ouest. Et le nature writing, c'est un des éléments de cette littérature-là. Moi, j'ai 38 ans, j'ai grandi avec le travail d'éditeurs qui m'ont précédé, de grands éditeurs comme Christian Bourgois, comme Francis Geffard qui dirige Terre d'Amérique, comme Actes Sud à la fin des années 80. Et j'étais vraiment féru de cette littérature-là. Et je pense qu'il y a la ligne éditoriale, pour vraiment être précis, c'est ça. C'est un univers littéraire qu'on connaît un peu en France, mais qui n'est pas si bien connu que ça.
Et oui, tout à fait.
Le nature writing, c'est ça.
Effectivement, bon, c'est vrai que sortent deux ou trois grands noms, mais c'est vrai que finalement, en piochant, on se rend compte que c'est peu connu et peu traduit, apparemment. Même si on va reparler de quelques rééditions, ça intéresse apparemment moins peut-être certains directeurs éditoriaux.
Je pense qu'effectivement, il y a des grands noms hein, de la littérature de l'Ouest. On connaît ce qu'on appelle à tort l'école du Montana, Jim Harrison. Thomas McGuane, Rick Bass, des gens comme ça ont déjà un public en France. Ma ligne éditoriale, c'est d'être en marge de cette littérature-là. Et la littérature, le nature writing, c'est vraiment une littérature qui s'intéresse au rapport de l'homme et de son environnement. C'est vraiment une littérature des grands espaces. Et il y a des textes, par exemple, de Jim Harrison qui rentreraient dans cette catégorie-là, comme il y a des textes d'Hemingway, Le vieil homme et la mer, ou les premières nouvelles de Nick Adams, par exemple, Les neiges du Kilimandjaro. En fait, ça fait partie vraiment d'une tradition littéraire américaine très, très riche. très présente depuis longtemps dans le paysage éditorial américain, et qu'en France, on a découvert très tardivement. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à explorer, oui.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai relevé dans votre site, qui est très bien fait, une phrase qui m'a tiltée, parce que je trouve qu'elle correspond aussi, on peut le transposer tout pour la littérature noire et le polar, et il est écrit « Plus nous détruisons la nature sauvage, plus nous sommes amenés à croiser des écrivains de nature. » Alors, je trouve que ça correspond totalement au genre littéraire que nous défendons, parce que nous, on pourrait transposer « Plus on est dans la crise sociale, et plus ce genre littéraire a de l'avenir. » Donc, tout naturellement, vous avez une collection noire.
Oui,
ça va ensemble.
La phrase que vous avez citée, que j'aime beaucoup, elle est de Rick Bass, justement. Et effectivement, la littérature, elle est, mon point de vue en tant qu'éditeur et que petit éditeur, c'est que la littérature, elle est universelle et elle couvre tous les sujets. Fondamentalement, le sujet importe peu, qu'on fasse des livres sur la nature ou de la littérature policière ou des livres sur, je sais pas, la pêche ou le bateau ou n'importe quoi. Pour moi, le seul critère, c'est qu'il y a des bons livres et des mauvais livres.
Tout à fait. Nous défendons la même.
Voilà. Et les notions de genre et de sous-genre sont des constructions artificielles, en général, faites par des gens comme moi, des éditeurs, des journalistes.
Et peut-être aussi à cause du marketing, après.
Et exactement.
C'est plus la partie intellectuelle, c'est le côté commercial.
Voilà, ça n'est pas sans tomber dans un cynisme exacerbé, c'est simplement une manière de se présenter. Si on fait une maison d'édition, je crois, ultra généraliste, même si ce n'est pas très correct de parler comme ça, mais une maison d'édition généraliste qui fait des romans, de la poésie française, étrangère, des essais, des guides de voyage, de la BD, etc., on veut être Gallimard tout de suite. Je pense que c'est pas possible.
Il commence à être bien installé quand même déjà, ces braves gens. Donc, voilà. Effectivement.
Et qu'on peut pas être bon partout. Alors que moi, je connaissais cette littérature-là qui m'a bercé, qui me fascine. Et je pense qu'il vaut mieux être bien. Disons qu'il vaut mieux creuser son sillon, se spécialiser dans un genre qu'on connaîtra à fond, quitte après à évoluer. Mais il faut avoir une marque de fabrique. Oui, on peut dire que c'est du marketing, mais c'est aussi une manière de donner un sens à notre travail. C'est-à-dire que
de le signer
j'allais
un
pas
petit peu.
Créer une maison d'édition en disant « Voilà, je vais faire ce que fait François Guérif chez Rivage ou Terre d'Amérique chez Albin Michel. » Ça n'a pas de légitimité.
Non, et puis en plus, je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui transparaît dans vos phrases, c'est aussi le mot passion, vous éditez ce que vous aimez.
Ah oui, ça c'est génial.
Je trouve que c'est... Voilà, ça doit être passionnant.
Métier, oui. Mais comme vous, enfin, le métier d'éditeur, c'est un métier qui n'est pas un métier très compliqué, sauf que c'est un métier de passion. Vous lisez les livres que vous avez envie de lire.
Ah, tout à fait. Tout au moins, on finit ce qu'on a envie de lire. On en commence
voilà,
d'autres.
Moi, c'est pareil. Moi, je fais la même chose. C'est la même chose que fait un libraire qui fait son choix et sa sélection parmi les livres que les éditeurs français lui envoient. Moi, je fais la même chose avec les livres que je découvre aux États-Unis ou que des gens m'envoient. Et s'ils me plaisent, effectivement, je les édite. Je fais parfois même des entorses à ma ligne éditoriale qui sont plus ou moins visibles, mais... Mais voilà. Oui.
Après, vous avez trouvé le choix entre les arguments. Donc, si je ne m'abuse, donc là, on est quand même pour parler de la collection noire, une de vos deux collections. Et si je ne m'abuse, le premier édité, et vous aviez à cœur d'éditer celui-là, c'est Le gang de la clé à molette de Édouard Abbey. Je ne sais pas si je prononce bien, moi j'ai un accent anglais absolument terrible. Je dis tout de suite le traducteur parce que c'est très important, les traducteurs. Il faut un travail fantastique. C'est Pierre Guillaumin.
Oui.
Et avant de parler du gang de la clé à molette, titre ô combien attractif, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce personnage d'Édouard Abbey. D'ailleurs, vous avez des écrivains dont on a envie de parler avant de parler de leur livre. C'est un écrivain absolument extraordinaire. Il a une vie étonnante.
Oui, Édouard Abbey, c'est un homme qui était né en 1927, qui est mort assez jeune, à 62 ans, en 1989. C'est quelqu'un qui avait grandi en Pennsylvanie et qui, en rentrant, lorsqu'il avait une petite vingtaine d'années, a découvert les déserts de l'Ouest. Et il a commencé à se promener, à explorer ces déserts de l'Ouest américain. Il a été fasciné par ces paysages-là et très vite il est devenu ranger, firewatch, donc je ne sais pas comment, guetteur de
feu.
Vous savez, il était guetteur de feu, voilà, dans une de ses tours pour observer les incendies dans les immensités de l'Ouest, enfin dans les forêts cette fois, pas dans les déserts. Et c'était un homme qui avait une plume extraordinaire, qui fait des romans. Qu'on pourrait qualifier de western d'ailleurs, de
road movie aussi, un peu du road movie.
Voilà, des romans d'aventure, on va dire, et puis il a fait beaucoup de récits de nature, justement, où pendant un nombre de pages, il décrit son existence dans le désert, par exemple, lorsqu'il était ranger dans un parc national, pendant 6 mois, une saison au désert, et il a fait un livre qui est sorti en 68, qui s'appelle Désert solitaire, qui est un des très, très, très grands textes de la littérature américaine et l'un des 4 ou 5 grands textes incontournables du natural writing que je connaissais, qui est un livre vraiment fascinant où, effectivement, il raconte son expérience de ranger dans le désert avec des descriptions très longues et très peu ennuyeuses de la faune, de la flore.
Oui, c'est quelque chose à préciser parce que le lecteur a des fois un petit peu une certaine appréhension quand on parle de longues descriptions de paysages, alors que celui dont vous parlez, je ne l'ai pas lu, mais dans Le gang de la clé à molette, c'est pareil, il y a des descriptions qui durent des pages de paysages qu'il a l'air d'adorer et qui sont, c'est vraiment des pages absolument sublimes de littérature. C'est vraiment...
Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans ce genre littéraire, c'est qu'en réalité, le sujet littéraire importe peu pour faire un bon livre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm-hmm. Mais eux, ces écrivains-là, et vous parlez de leur vie qui sont parfois, même très souvent, fascinantes et qui sont liées aux aventures qu'ils mènent, effectivement, un écrivain, il écrit souvent sur ce qu'il connaît. Mm-hmm. Et ces gens-là vivent dans les grands espaces, vivent dans la nature, la pratiquent au quotidien, et elle est quand même immensément sublime et différente de ce que nous, on peut imaginer en Europe. Donc effectivement, ça a un côté très, très exotique pour des Français. Et en même temps, c'est pas plus ennuyeux de lire une description de ce qui se passe dans le désert que de lire une description des bas-fonds new-yorkais. Il n'y a pas de raison. Si elle est bonne, la description, si l'auteur est un bon écrivain, et c'est le cas d'Edouard Abbey,
si
on
la
peut
plume
lire
est bonne.
100 pages, 200 pages sur le désert de l'Ouest et on ne s'embêtera pas. Pas plus qu'on ne s'embêtera en lisant, je ne sais pas moi...
Kawabata en décrivant un kimono.
Kawabata ou même David Goodis ou... voilà.
Ou Elroy décrivant les bas-fonds de Los Angeles, quoi.
Voilà.
Exactement.
Et quand même, donc, il faut une bonne plume pour écrire. Mais nous, ce qu'on apprécie beaucoup dans le roman noir, c'est qu'il y a souvent de très bonnes histoires. Et donc, dans celui que je veux évoquer, là, Le gang de la clé à molette, il y a une histoire absolument fantastique. Donc, en la résumant très, très rapidement, on a 4 personnages un peu déglingués, un peu des losers américains, au sens, on va dire, de l'American Dream, qui sont très, très en colère de voir justement ce désert de l'Ouest que Abby aime tant, défiguré par les grandes firmes américaines. Et ils décident d'entrer en lutte contre cette grosse machine, quoi. Et ils vont essayer par tous les moyens de lutter contre cette industrialisation et l'installation de routes et de tunnels. Voilà, et après, évidemment, ils vont être traqués, et c'est l'histoire de cette longue traque. C'est passionnant, du début, haletant. Moi, c'est quelque chose qui m'a pris au trip, c'est vraiment impressionnant, on ne peut pas le lâcher. Alors, pour les lecteurs qui vont aller voir le livre dans leur librairie favorite, d'abord aussi, félicitations pour la maquette. Des livres d'une très belle...
J'ai une excellente graphiste, oui, qui s'appelle Valérie Renaud et qui a beaucoup de talent.
Oui, et qui a vraiment fait une maquette à la fois très sobre et très attractive, avec des petits détails magnifiques. Et c'est un gros pavé de 500 pages. Ça se lit pas très rapidement, parce que ça dépend du temps qu'on prend pour lire, mais disons que c'est pas rebutant du tout, quoi. Il y a vraiment un souffle dans cette écriture qui est absolument fantastique, quoi. C'est un livre absolument
étonnant.
Oui, c'est
ce qui caractérisait, à mon avis, l'une des grandes qualités d'Abby, c'est la force vitale de son écriture. C'est un écrivain qui qui avait une passion pour la vie, pour l'existence, pour ces immensités de l'Ouest qui est tellement forte qu'on peut pas ne pas être entraîné par la moindre de ces lignes. C'était vraiment, à mon avis, un écrivain génial et à mon avis sous-estimé d'ailleurs encore.
Oui, j'ai l'impression, parce que on n'en parle pas tellement. En fait, aussi, quelque chose qui m'a vraiment intéressée et beaucoup interpellée dans ce livre, c'est qu'en fait, il ne respecte pas grand-chose et il est totalement politiquement incorrect. Par exemple, oui, c'est un des premiers livres qui ose se moquer ouvertement des tribus indiennes. Ça, c'est un truc, honnêtement, chapeau.
Non, mais parce
on peut respecter
fait,
et...
Non, mais Abby, c'était vraiment ce qu'on appelle un anarchiste. Et beaucoup de gens le sont sur le papier, mais en fait, ils le sont pas vraiment dans leur vie. Et Abby, lui, c'était vraiment quelqu'un qui avait une réputation sulfureuse, alors qu'il était doux comme un agneau et certainement pas quelqu'un de violent, ni même de misanthrope comme on a pu l'écrire et comme
ceci dit, dans la prologue et le préface, on a un... C'est marrant parce que ça donne un tout petit peu cette impression-là. Je vais citer la phrase qui doit être citée régulièrement à propos de Abby quand il part d'un endroit où il y a pas mal de gens et qui dit « Ah, ceux que je n'ai pas encore insultés, excusez-moi ». Ça fait un peu misanthrope quand même. Hein.
Non, parce qu'en réalité...
C'était une grande gueule.
Lui, il le dit dans un livre que je vais publier au mois de janvier. Il dit qu'en gros, il est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il aime ses amis, il n'aime pas ses ennemis et il considère le reste de l'humanité avec une bienveillante indifférence. Mais simplement, lui, ce qui le rendait dingue, et ce qui paraît assez logique, c'est de voir du monde là où il ne doit pas y en avoir. C'est-à-dire qu'il a toujours dit, et il l'a toujours pratiqué, il l'a toujours dit dans ses écrits aussi, c'est que effectivement, le désert, c'est quelque chose qui est magnifique, et que n'importe qui, avec une paire de Rangers à $18, deux jours à tuer, un sac à dos et un petit peu de nourriture, peut découvrir des paysages extraordinaires, et que ça, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent vivre. Par contre, ce qui le révoltait, et c'est le point de départ de ce livre, Le Gang de la Camolette, c'était que, justement, on décide, sous des prétextes pseudo-démocratiques, de faire, par exemple, faire une route, pour accéder en haut d'une montagne, bétonner les parcs naturels comme le Grand Canyon, ou de faire un pont comme l'ont fait les Navajos justement il n'y a pas très longtemps, pour que ça soit plus facile à des gens de venir voir le Grand Canyon. Et donc de détruire quelque chose qui, et là je vais citer Ridbas, une fois qu'on a détruit la nature sauvage, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière.
Il n'y a plus de retour en arrière.
Lorsqu'on a noyé le Glen Canyon pour faire un barrage qui a donné naissance au Lake Powell, on a noyé l'un des plus beaux canyons américains, et beaucoup plus beau que le Grand Canyon. Voilà.
Et je crois que
pour arroser les golfs de Las Vegas.
Et je crois que ce qui est très important de préciser, c'est qu'en lisant ce livre, comme d'autres d'ailleurs que l'on va évoquer, ça veut dire aussi respecter la nature, et vous respecterez l'homme aussi, parce que l'être humain, il est là aussi. Et il y a énormément d'humanité dans son écriture.
Voilà. Mais voyez, vous-même vous le dites. Vous m'avez dit il y a quelques minutes qu'il pouvait passer pour misanthrope, mais il y a beaucoup d'humanité dans son écriture, ce qui est le contraire de ça. Il est simplement, effectivement, révolté par le consumérisme, par la société américaine des années 70 à nos jours, qu'on vit tous. On est tous contre le fait de massacrer une montagne, de massacrer un désert.
Mais lui, il se donne les moyens d'eux. Alors, je vais vous interrompre parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle et notre première partie d'émission. Donc, je vous propose qu'on vous rappelle dans 10 minutes, après les informations, pour parler des autres livres. Merci beaucoup. À tout de suite.
18h30 sur Agora FM.